L'association Grands-parents pour le climat et la Maison du développement durable accueillait le mardi 11 novembre la soirée Appel aux consciences pour le climat. L'événement visait à susciter le débat entre acteurs économiques, politiques, scientifiques, mais aussi philosophiques, à quelques jours de la COP21, la 21e conférence des parties sur le climat. Le public présent à l'auditoire Socrate de l'UCL a donc pu entendre et échanger avec Myriam Tonus, laïque dominicaine, Jean-Pascal Vanipperzeel, climatologue, Michael Privot, islamologue, Eddie Kakelberg, journaliste et ancien premier grand maître adjoint du Grand Orient de Belgique, Éric de Colener, professeur à la Solvay Brussels School of Economic and Management à l'ULB, et enfin Herman Van Rompuy, ancien président du Conseil européen. Vous allez écouter la deuxième partie de la conférence enregistrée le 11 novembre à l'auditoire Socrate à Louvain-la-Neuve.
Alors là, je me suis dit que j'allais avoir le trac. Parce que je dois introduire et, monsieur Eddie Kakelberg. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais au moins. Je ne m'étais jamais imaginé que j'allais animer une séance avec Eddie Kakelberg, parce que normalement, c'était son rôle à lui. Et voilà, c'est l'inverse. Parce que, en fait, au moment où on a sollicité M. Kakelberg, il a d'emblée proposé. D'abord, il a eu une disponibilité formidable, très généreuse. Et puis, il nous a d'emblée proposé de témoigner, et de témoigner en tant que franc-maçon. Témoigner publiquement. Donc, lui qui a été premier grand maître adjoint du Grand Orient de Belgique. Alors là, nous n'avons pas de texte de référence en provenance des obédiences maçonniques belges. Mais, par contre, leurs équivalents français se sont exprimés. Alors, nous allons effectivement l'écouter sur comment les milieux maçonniques... Enfin, quelle est la parole des milieux maçonniques belges sur le climat? Comment contribuent-ils, justement, puisque c'est le terme des maçons, au progrès de l'humanité. Seulement, Eddie Kakelberg, c'est aussi un journaliste, c'est aussi un homme des médias, que nous ne pouvions pas avoir ici sans lui demander aussi, mais quel est le rôle des médias dans cette affaire? Quelle est l'ouverture, quelle est la prise de conscience dans nos médias en Belgique? Et parce que, si vous êtes comme moi, on peut s'empêcher quotidiennement de s'indigner quand, après d'excellentes émissions sur l'état de l'environnement, on entend les journaux économiques et boursiers aligner leurs chiffres implacablement indifférents à leurs conséquences écologiques. Donc, les références ne semblent pas communes. Les journalistes sont-ils schizophrènes? Monsieur Kakelberg, on vous écoute.
Chers amis, merci. Vous conviendrez que le défi est énorme, n'est-ce pas? Parce que si sur la part maçonnique, je fais confiance à l'exotisme du sujet pour ne pas avoir trop à craindre vos réflexions, quoique, c'est évidemment sur la deuxième partie, sur les médias, que je risque ma tête. Commençons donc par la maçonnerie. Je commencerai par vous dire... Mais vous l'aurez compris que, à l'instar de mes autres collègues ce soir, je m'exprime évidemment en mon nom personnel, et non pas donc en regard de quelconque fonction que j'y aurais eu ou y aurais encore, parce que tel n'est pas le mandat que l'on donne, ces fonctions étant purement d'ailleurs internes, n'ont aucun intérêt d'ailleurs par rapport à l'externalité des choses. Témoignage de maçon, donc, pour vous dire que tout dans le champ de la réflexion symbolique maçonnique et de la démarche maçonnique doit, ou devrait en tout cas, inciter les membres de cette chaîne universelle à la réflexion sur ce que je qualifierais moi plus largement de la dignité humaine, parce que ce dont nous parlons n'échappe pas au champ plus vaste de la réflexion sur la dignité humaine. Il est parfaitement indigne, évidemment, d'imaginer froidement, et encore, en regard du sujet du jour, le mot froidement est évidemment un peu cynique, mais de laisser froidement aux générations futures le poids de nos incohérences présentes. Je ne dis pas de nos incohérences passées, et c'est probablement par là qu'il faudra commencer si nous voulons toutes et tous, dans nos milieux respectifs, apporter progressivement, mais urgemment, notre conviction, notre force de conviction. Rien dans le champ symbolique de la maçonnerie ne devrait échapper, disais-je, à la dignité humaine, puisque le prescrit même est effectivement de contribuer à l'édification d'un temple de l'humanité plus juste, d'une meilleure responsabilité pour le bonheur pour tous, toutes et tous. Et que donc, dans cette équation-là, nous répétons dans nos rituels, lorsque nous, symboliquement nous formons une chaîne dite d'union, qu'elle nous unit dans le temps et dans l'espace à toutes celles et ceux qui nous précèdent et celles et ceux qui nous succéderont. Rien que ce symbole fort, majeur, il vous est connu, n'est-ce pas ? Il a déteint, y compris, vers d'autres organismes de type charitable, comme des Rotary ou autres. Mais je veux dire, cette idée de chaîne, cette idée d'union, cette idée de chaîne universelle est un des référentiels connus. Eh bien, malgré l'exploitation de ce symbole, malgré le fait que dans l'histoire, la nature, les aspects de la nature ne soient pas étrangers à la symbolique et au rituel maçonnique, on nous a fait le reproche de ce naturalisme excessif. Eh bien, malgré tout cela, nous vivons dans l'exception française. La France, les obédiences maçonniques françaises viennent effectivement d'émettre et de se mettre d'accord sur un texte qui, ce texte, a le mérite d'exister. Il rappelle quelques principes forts et succède en fait à un rappel des chartes des valeurs que le Grand Orient de France a portées et qui rappellent la dignité, la démocratie, l'éducation, l'environnement, la santé, comme quelques-uns des périmètres indispensables dans l'urgence du travail maçonnique à accomplir. Mais là où nous butons, c'est qu'en France, les obédiences maçonniques, peu ou prou, à tort ou à raison, et ça peut légèrement varier dans le temps et l'espace, mais ont une histoire telle qu'elles représentent effectivement un levier ou une capacité d'expression convenue dans la société politique française. Dans l'espace social français, il n'est pas anachronique d'entendre s'exprimer les obédiences maçonniques et de leur laisser le champ à l'expression sur un certain nombre de sujets de société, de manière récurrente. Émissions radio, sites web, déclarations, interventions dans les médias, visibilité en tête de certaines manifestations, toutes choses qui, au minimum, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, paraissent pour le coup à peu près encore irrecevables dans le champ maçonnique belge. Pourquoi dis-je cela ? Parce que j'ai le cruel sentiment que le monde déboussolé, dans lequel, ou déboussolant en tout cas, dans lequel nous vivons, qui enchaîne les crises, a progressivement amené chez les maçons aussi, mais c'est déplorable dès lors que ce n'était pas leur mission première, a amené chez certains nombres, pour ne pas dire un bon nombre de maçons aussi, une frilosité certaine qui les amène à se réfugier dans un temple maçonnique, dans un univers qu'ils connaissent avec des codes qu'ils maîtrisent, plutôt que d'utiliser, par rapport à un monde extérieur dont ils ne maîtrisent plus les codes et dont ils ne comprennent pas, dont ils n'ont plus la maîtrise pour enrayer la progression qu'ils jugent éventuellement néfaste, alors que, à l'origine, l'existence même de ces codes, de la discrétion de nos réunions et de notre capacité à nous mettre à nu devait nous pousser à engendrer l'utopie. C'était le lieu où l'on pouvait tout essayer sans être ridicule, où l'on pouvait défier sa propre conviction à l'aune de l'autre, où l'on pouvait essayer les possibles, c'est le lieu des futuribles. Les maçonneries devront se réveiller et j'espère que la contribution française sera le signal. Non pas que je nie qu'à titre individuel, des maçons s'en préoccupent, des maçons et des maçonnes, en Belgique comme ailleurs, s'en préoccupent. Mais si je regarde le nombre d'exposés qui sont faits sur les 10 dernières années dans nos loges, et mes fonctions, là, pour le coup, m'ont permis d'avoir une vision d'ensemble pendant un laps de temps assez long sur les divers programmes d'activité et de conférences dans les diverses loges du pays des différentes obédiences maçonniques, puisque tel est le terme, je puis vous affirmer que nous sommes probablement une vingtaine seulement à, je dirais, prendre notre petit cartable, nos décors et nos papiers pour aller conférencer et essayer de soulever des thèmes qui portent à réflexion sur une nouvelle utopie. parce que celle-ci en fait partie. C'est un des condiments, serais-je tenté de dire, dans l'urgence, bien sûr, mais comme tant d'autres. Renouveler le système de production, réfléchir au trans ou au post-humanisme, réfléchir évidemment à l'arrivée de la robotique, réfléchir à l'influence des sciences, toutes choses qui ont été faites et qui ont été même, je dirais, le cœur d'œuvre de la maçonnerie. Et dois-je vous rappeler, vous faire l'insulte de vous rappeler que la maçonnerie a aussi généré en son temps une université dite libre de Bruxelles, dont le fronton porte encore l'idée que ce soit par la science que l'on vaincrait les ténèbres. Alors, j'espère donc vraiment que le coup de pied dans la fourmilière que les obédiences françaises viennent de déposer nous permettra de donner plus d'écho à ces quelques-unes et quelques-uns qui ont jusqu'ici essayé, tant bien que mal, d'inscrire ça à l'agenda des obédiences et se sont vus en règle générale opposés, comment dire, à un accueil fraternel et poli. Mais c'est un engagement que nous pouvons prendre, c'est de ne pas baisser les bras. Nous avons désespéré Billancourt en ne cessant de nous convaincre que le problème ne gît pas en nous, générationnellement parlant, mais dans ceux à qui nous n'avons pas réussi à transmettre, dit-on, parce qu'ils seraient le reflet d'une paresse, d'un égoïsme, d'un égotisme, d'un individualisme. À défaut de vérité en cela, qui ne serait d'ailleurs que le pur produit des institutions que nous aurions nous-mêmes créées et qui les auraient donc ainsi façonnées, je m'inscris en faux, parce que je n'ai jamais vu autant de générations se lever pour s'engager dans des ONG, prendre en considération des débats de société. Je n'ai pas souvenir, lorsque je fréquentais les bancs de mon université, nous discutions politique, mais nous ne discutions pas altruisme. Et je pense qu'au moins maintenant, on est plus ridicule lorsque l'on est jeune et que l'on se ressent altruiste. C'est nous qui sommes évidemment ridicules à croire qu'un certain nombre de jeunes n'ont pas cette conviction inscrite en eux. Donc je vous rejoins lorsque vous nous dites qu'il faut relever cette confiance, ce capital de confiance. Voilà pour la maçonnerie, chère Thérèse. C'était la partie la plus simple. Les médias sont-ils schizophrènes, les journalistes ? Peut-être. Mais enfin, même s'il ne s'agit pas de se défausser, je voudrais vous rappeler que les patrons de presse sont très rarement journalistes et que les lobbies qui possèdent les organes de presse, et je parle bien de lobbies, sont rarement journalistes. Et qu'ils soient le reflet de parlements, c'est le cas chez moi, ou qu'ils soient le reflet d'intérêts financiers privés par ailleurs, ça ne change pas grand-chose à la question. De quoi parle-t-on ? Sur nos antennes, enfin, de toute façon, comme nous sommes tous devenus tout à fait multimédia, nous avons tous des sites web, tous les journaux de presse écrite qu'un site web font aussi de l'image et du son. On fait donc tous un peu de tout, de plus en plus mal, je vous en conviens, parce que comme on doit nourrir la machine 24 heures sur 24 tout le temps avec moins d'effectifs, on fait moins bien notre métier. Mais donc, les consommateurs que vous êtes doivent là aussi avoir une incidence. Je n'oserais pas clôturer par « on a les médias qu'on mérite », mais quand même. Ce que je vais vous dire n'est pas une boutade. Lors de la première guerre du Golfe, l'émergence médiatique, notamment de CNN, provoquait chaque matin les colibés, sur le mode de « tu as vu hier encore ces mêmes stupides images depuis Bagdad du même correspondant américain sur le même toit d'un hôtel avec en arrière-fond dans la nuit les mêmes tirs de DCA ». Il était très facile de répliquer, évidemment, deux choses, ce que nous ne manquions pas de faire. Un, comment veux-tu que ce soit très différent dès lors que c'est le même correspondant qui est logé dans le même hôtel dont il ne sort pas, à la même heure, donc avec le même fond de nuit, avec le même arrière-fond géographique, s'il y a une batterie DCA et s'il y a des attaques, à la même heure, il y aura forcément la même image. Première chose. Deux, constat, si pendant 3 mois, tu me le dis chaque matin, c'est que chaque fois la veille au soir, tu as continué à regarder. Alors, sommes-nous schizophrènes dès lors que vous nous dites qu'à d'excellentes émissions sur le climat, des informations économiques arrivent qui ne prennent absolument pas en compte les aspects de la question ? Je serais moins inquiet de cet aspect-là des choses, si vous me le permettez, parce que chacun ayant un peu vocation à balayer vite le problème, les journalistes rendent compte aussi, dans la sphère qui est la leur, des faits qu'ils croisent. Et si le fait économique et industriel qu'ils doivent traiter prend fort peu en considération, ou si le fait boursier qu'ils doivent traiter intègre fort peu le paramètre que vous évoquez, ils pourraient difficilement, à moins d'éditorialiser, prendre en considération autre chose que les faits. Je veux dire que si l'action BP ou si l'action de n'importe quel autre groupe à la bourse, à Euronext ou ailleurs, n'intègre pas un paramètre de réflexion de cette nature, il sera de hautes difficultés pour mes collègues de l'écho sur nos antennes de faire référence à quoi que ce soit d'autre que à l'objectivité des faits. Est-ce que nous avons encore une capacité à éditorialiser ? Non. Et ça, c'est le reflet d'un manque de confiance de la population et des instances politiques par ailleurs, qui, depuis les scandales de Timisoara, entre autres, ont exclu le journalisme du champ de la possibilité de l'éditorialisation, parce que cela faisait craindre une segmentation politique de l'auditoire, de l'audimat, et que donc les annonceurs, appréciant fort peu ce genre de choses, demandaient du consensualisme pour draguer le plus grand nombre de personnes possibles à une heure donnée. Je suis entré dans une RTBF où tous les matins à la radio, on l'aimait ou on ne l'aimait pas, mais Lucien Latin éditorialisait avec un punch qu'on lui reconnaissait tous. Avait-il ses convictions perso ? Oui. En faisait-il état ? Oui. Ce qui nous permettait de savoir d'où il parlait, mais au moins il parlait. Aujourd'hui, peut-on encore avoir des convictions à l'RTBF ? Non. Et que lorsque vous en avez, vous êtes prié par la direction de les mettre en poche. Donc, je me mets évidemment en infraction ce soir, mais je suis un rebelle statutaire. Mais je suis le dernier, parce que je suis de la dernière génération des statutaires, et ça, c'est un impact considérable, parce que derrière les générations, ce sont des CDD, parfois des CDI, à qui l'on dit « t'es pas content, il y en a 24 ans à la porte ». Et ça, mesdames et messieurs les politiques, c'est votre responsabilité, parce que vous avez laissé faire en sorte que le dernier média public en Belgique, dont des personnalités statutaires pouvaient dire « fuck off » lorsque l'on essayait de faire pression sur eux, surtout dans la hiérarchie interne, sur l'évolution d'un certain nombre de prises de parole, c'était le statut qui permettait ça, parce que l'on ne pouvait pas, comme on disait, il faut tuer père et mère pour se faire foutre dehors. Aujourd'hui, la précarisation du statut même de journaliste dans un certain nombre d'instances fait taire la parole dans un certain nombre de cas. Mais je m'inscrirai plus en problème lorsqu'à l'issue d'une excellente émission, comme vous le dites, et il y en a, c'est dans l'espace publicitaire qui suit, pour vous donner le moment le plus dramatique, ou l'un des moments les plus dramatiques que j'ai pu ressentir dans ma vie, c'est dès lors que l'on en était à faire une émission d'hommage après le terrible assassinat de ce jeune à la gare centrale à l'époque pour se faire voler, on le s'en rappelle, son portable. Nous nous retrouvions après une séquence hyper émouvante avec une pub qui commençait « Si toi aussi tu veux ton téléphone portable gratuit, n'hésite pas à téléphoner à la banque machin et à ouvrir ton compte jeune dès demain ». Donc vous voyez, c'est là-dedans évidemment, dans cette éthique de contraste-là que j'ai le problème. À moins peut-être que ce ne soit d'ailleurs l'aube de la solution, parce que je pense que le réflexe qui pourrait en être, c'est l'écœurement, c'est de se dire, là gît le problème de l'image même de notre société, qui produit des discours mais passe très peu à l'acte. Si vous me demandez in fine, suis-je optimiste par rapport à ce qui va se passer à Paris ? Non. Oui, parce que sans doute les conditions politiques, mais on va nous en parler dans un instant, auront évolué et que des textes se signeront, mais non, parce que nos mouvements de conviction tels que nous sommes ici occupés à les égrener n'ont pas encore réussi à faire percoler dans la pratique de leurs membres, dans le concret de la pratique de leurs membres, ce qui se trouverait inscrit sur le papier. Pour ça, il nous faut encore 2 décennies. Avons-nous le temps ? J'en sais rien. Merci.
Alors, monsieur de Keulener, Éric de Keulener, donc voilà, justement, on a parlé des universités, on a parlé de celle qui avait sur son fronton les symboles maçonniques. Je sais que c'est fini votre mandat de président, mais enfin, vous êtes en tout cas encore professeur à la Solvay Brussels School of Economics and Management de l'ULB. Et par ailleurs, vous avez d'autres mandats dans le monde du crédit, de la banque, mais vous êtes aussi vice-président du VVF Belgique et administrateur de plusieurs sociétés. Alors, ce soir, Nous vous demandons un témoignage, comme aux autres, par rapport aux enjeux de ce sommet de Paris, un peu comme la voix de ces acteurs privés, que parfois nous diabolisons, ou bien dont nous ne savons pas comment influencer, dont nous savons qu'ils ont une influence énorme sur le politique. Et alors c'est à la fois c'est nous faisons partie de tout cela. Nous sommes aussi des acteurs économiques et en même temps. Voilà, on a l'impression d'une perte de maîtrise de tous ces acteurs économiques et financiers, d'une perte de confiance du système en général. Et donc, vous avez dit récemment, dans une interview accordée à Trends Tendance, pour les politiciens, la croissance et l'inégalité sont pratiques. Peut-être vous pourriez nous expliquer cela aussi. Mais est-ce que, d'après vous, le défi climatique entraîne-t-il la remise en cause de la croissance, de notre modèle de production, de consommation, bref, de notre mode de vie? Donc, il y a des économistes qui se sont exprimés en faveur d'une autre croissance ou, d'un autre concept et d'un autre modèle qui serait plutôt le modèle de la prospérité. Comment, d'après vous, le monde économique pourrait-il s'orienter vers un changement de modèle? Et comment est-ce que l'université pourrait aussi y contribuer?
Bonsoir, mesdames, messieurs, chers amis, chère Thérèse. Je vais donc aussi essayer de répondre à la question qui m'est posée, sachant que le pouvoir des universités, il n'est pas non plus considérable. Alors, par rapport au problème qui est posé, je crois qu'il y a un ensemble de démarches que chaque citoyen peut envisager. C'est de changer son propre comportement, le comportement vertueux, mais je crains malheureusement que nous ne serions pas suffisants pour véritablement changer les comportements, influencer suffisamment les décisions, qu'elles soient d'ordre politique ou économique. Certains recommandent des désinvestissements dans l'industrie des industries carbonées, du pétrole, du charbon, des boycotts ou d'encourager de ne plus investir dans ces industries. Mais tant qu'il y a moyen d'y gagner de l'argent, il y aura des gens qui y investiront et il y aura du pétrole qui sera extrait, du charbon qui sera extrait et du gaz tant qu'il sera consommé. Donc, si on veut changer quelque chose, c'est plutôt au niveau de la consommation. Alors, on peut chacun essayer de consommer un peu moins d'énergie, mais de nouveau, je crains que cela ne suffise pas et que la grande masse de nos concitoyens ne se sentent pas suffisamment concernés que pour changer fondamentalement leur comportement si les paramètres ne changent pas. Et de quels paramètres peut-on parler? Soit on peut interdire certains comportements. Dans certaines villes, on interdit effectivement la présence de certains types de voitures, où on taxe fortement la présence de voitures dans certains endroits. Donc, l'interdiction, c'est pas évident. La taxation, c'est déjà plus faisable. Mais on doit bien se rendre compte, là, que tant que l'on présente la lutte pour l'environnement comme un ennemi de l'activité économique, on risque de faire le jeu des lobbies économiques en tout genre. Et les lobbies, si on veut taxer, par exemple, les produits pétroliers, je crois que le litre de diesel est passé d'un 60 ou un 80 euros à peu près 1 euro, 1,10 €. C'était le moment idéal pour mettre 20 ou 30 ou 40 centimes de taxes supplémentaires et d'utiliser ces taxes pour, entre autres, ce fameux tax shift dont on parlait, c'est-à-dire alléger d'autres impôts, entre autres les impôts sur le travail, et peut-être annoncer qu'on allait taxer encore plus à l'avenir les produits pétroliers pour inciter les citoyens à changer de comportement. Mais si on essaye de faire ça, les lobbies pétroliers, la FEB, qui est particulièrement influente en Belgique, convainquent l'opinion publique de diverses façons et les décideurs que si on fait ça, monsieur le politique, vous avez bien entendu, c'est votre responsabilité, mais évidemment, ça va coûter des emplois, on va devoir fermer telle raffinerie. La compétitivité, vous comprenez, subitement, ils sont très préoccupés de la compétitivité des entreprises. Le pouvoir d'achat, subitement, ils sont très préoccupés du pouvoir d'achat du citoyen. Et donc, ça va coûter beaucoup d'emplois, et on devra bien dire que c'est de votre faute. Et donc, il y a une très grande difficulté à appliquer des taxes qui, pourtant, seraient fort nécessaires si on veut décourager la consommation d'énergie, si on veut changer les comportements en matière de transport, en matière d'isolation. Aujourd'hui, les pouvoirs publics donnent énormément de subsides à une nourriture, une alimentation de masse, et très peu de subsides à une alimentation de qualité. Alors si on arrêtait déjà de subsidier l'alimentation de masse, l'alimentation de qualité deviendrait plus compétitive. On pourrait même envisager de subsidier l'alimentation de qualité. Aujourd'hui aussi, les pouvoirs publics donnent des subsides colossaux à des comportements fort consommateurs d'énergie. Donc si on arrivait déjà à supprimer ces subsides, on induirait déjà certains comportements. Si en plus, on arrivait à taxer les consommations nocives, on y arriverait encore mieux. Mais de nouveau, les lobbies traditionnels sont arrivés à nous faire croire et à faire croire à nos décideurs que la seule politique environnementale possible, c'était de donner des subsides aux photovoltaïques, des subsides aux renouvelables. Et alors, oui, c'est la crise, vous comprenez, l'austérité, on n'a plus d'argent, donc on ne peut plus se permettre des politiques environnementales. Une vraie politique environnementale, elle inciterait à taxer les comportements polluants et elle serait, par définition, favorable, en tout cas aux équilibres budgétaires, et elle serait probablement très favorable aux investissements, mais aux investissements dans des industries nouvelles qui ne sont pas encore affiliées à des fédérations professionnelles et donc à l'AFEB. Et donc, personne ne plaide très fort, ne plaide beaucoup en faveur d'elle. Donc, je crois que si l'on veut changer le paradigme, si on veut vraiment influencer un autre type de comportement, il est opportun de changer son comportement personnel. De nouveau, je crois que ça ne peut que faire du bien. Mais il est extrêmement important, en tant que citoyen et en tant que citoyen engagé, de faire pression sur les responsables politiques dans chacun des partis auxquels on est affilié ou dont on se sent proche. Chacun de ces partis a aujourd'hui un discours vaguement écologique et un comportement très très peu écologique. Et donc, on a facilement des consensus sur des fausses solutions. Un certain patronat en Belgique nous dit « Mais vous savez, la solution, nous la connaissons, c'est la responsabilité sociale des entreprises. » Et d'ailleurs, nos banques, nos affiliés bancaires, vendent déjà des fonds d'investissement socialement responsables. Vous en connaissez, on vous en a peut-être déjà vendu. Si vous regardez ce que sont les principaux investissements de ces fonds d'investissement socialement responsables, il y a quelques années, il y avait BP, maintenant plus. Volkswagen y était aussi. Il y était encore parfois, mais vous avez pratiquement toutes les sociétés pharmaceutiques. Sociétés pharmaceutiques, j'ai rien contre, mais beaucoup ont été condamnées pour mensonges, falsification de tests, corruption de médecins, etc., etc. Ils ont payé des amendes pour tout ça, mais Elles sont socialement responsables parce qu'elles ne polluent pas vraiment, elles n'ont pas fait de licenciements massifs. Bref, elles correspondent aux critères de l'investissement socialement responsable. Donc, oui, patronat nous dira, vous savez, on va progresser là-dedans, les entreprises seront socialement responsables, et donc, ne nous mettez pas trop de réglementations, parce que, vous savez, si vous nous mettez des réglementations, alors on est obligé de licencier, on ne peut plus investir, et on est obligé d'aller investir ailleurs, là où on nous permet de polluer. Donc, le changement de paradigme, il ne viendra... Et là, je suis tout à fait d'accord que les universités, les intellectuels en général, ont un rôle important à jouer. Et pour terminer, je dirais que je crois vraiment que la non-opposition... Enfin, il est dangereux parce que trop facile alors pour les lobbies traditionnels de récupérer la sauce. Il est dangereux de vouloir opposer le souci de l'environnement et l'économie. D'autant que je crois qu'il y a très très bien moyen de les réconcilier, étant donné qu'aujourd'hui, un des plus grands défis de nos économies occidentales, il est clair que dans beaucoup de pays émergents et beaucoup de pays en voie de développement, il y a encore d'énormes besoins. Mais dans nos économies occidentales, les grands besoins sont très souvent satisfaits. On ne peut pas ajouter beaucoup de voitures. Donc, une partie de la relative stagnation que nous connaissons quand même dans certains de nos pays depuis longtemps, au Japon depuis 20 ans, vient du fait qu'il y a probablement un manque de besoins. Mais l'environnement pourrait constituer, le souci de l'environnement pourrait constituer un besoin considérable. Nettoyer les sites pollués, améliorer la qualité de l'air, améliorer la qualité des rivières, l'investissement qui serait nécessaire pour faire tout ça serait de nature à relancer l'activité économique, à donner à long terme un vecteur de développement économique. Mais évidemment, il faut pouvoir le financer. Et j'en reviens à mes taxes. C'est pas que je sois obsédé par la taxation, mais je trouve quand même que si l'essence coûtait 2 euros, ça serait pas plus mal, et le diesel 3, ça serait encore mieux. Et si on cessait de les subsidier à travers les voitures de société et les cartes essence de société, ce serait encore mieux. Et donc voilà, j'espère que j'ai un tout petit peu répondu, chère Thérèse, mais je crois qu'il y a des solutions, mais que nous devons faire pression sur tous les décideurs politiques que nous connaissons et sur ceux qui peuvent les influencer. Et en tout cas, essayer de mettre en avant des solutions pratiques et simples, et plus pratiques et simples que celles qui nous sont parfois servies comme des leurres ou des miroirs aux alouettes.
Donc nous allons terminer par l'intervention de Monsieur Van Rompuy, Herman Van Rompuy, qui nous fait l'honneur d'être venu ce soir. Donc vous présentez, ça prendrait... trop de temps, si je devais citer tous vos mandats. Rappelons seulement que, après de nombreux mandats parlementaires et ministériels, vous avez été président de la Chambre. C'est là que je vous ai connu aussi un peu plus près, de 2007 à 2008, et puis Premier ministre jusqu'à fin 2009. Et c'est alors que vous êtes devenu le premier président du Conseil européen, et ce, jusqu'en 2014. Je mentionne qu'aujourd'hui, vous êtes président d'honneur du Club de Rome, dont je sais qu'il y a beaucoup de membres dans la salle. Alors, dans ce dernier rôle, d'ailleurs, de président du Conseil européen, vous avez, je pense, présidé la séance qui a décidé des engagements de l'Union en matière climatique. Donc, vous avez entendu, je pense, ce soir, beaucoup de critiques. Nous sommes des citoyens inquiets sur l'avenir de la démocratie. Aujourd'hui, donc, ces lobbies industriels et financiers dont Éric de Quellener a parlé exercent puissamment leur influence sur la société en général et puis sur les parlementaires. Face à eux, bon, les lobbies citoyens, ce qu'on peut appeler les ONG, les fondations, toutes les initiatives citoyennes qui vont se manifester, qu'est-ce qu'elles auront comme poids par rapport au poids si important de ces lobbies ? Quels sont les leviers, donc, quels sont les leviers pour que le politique puisse à nouveau gérer le bien commun, puisse à nouveau gérer ce seul monde que nous avons avec une vision à long terme ? Donc, nous vous écoutons, Monsieur Van Rompuy.
Je suis très fier que mon tout dernier Conseil européen a eu comme point sur l'agenda, le grand point sur l'agenda, disons la préparation de la position de l'Union européenne pour la conférence COP21 à Paris. On est tombé d'accord à 28. Il faut un consensus. Eh bien, je donne pas de leçons aux autorités belges, mais il serait préférable de trouver un accord à 6. Si on peut trouver un accord à 28, on peut en trouver un accord à 6 ici dans notre pays pour que la Belgique aussi ait une position, disons, respectable pour préparer la conférence de Paris. Ce n'était pas un exercice facile. Non seulement parce qu'on a besoin d'un consensus, mais que les situations climatiques et surtout énergétiques des différents pays sont tout à fait différentes. Et dans l'Union européenne, les compétences en matière d'énergie, par exemple, sont des compétences toujours nationales. Donc il n'y a pas de dimension vraiment communautaire. Il faut trouver des accords parce que la répartition des compétences est telle que je viens de le décrire. C'est particulièrement difficile parce que, tenant compte de toutes ces différences, eh bien, on doit fixer un objectif. Et certains ne peuvent pas, disons, atteindre l'objectif voulu. Je donne l'exemple des moins 40%, j'y reviendrai, en émissions CO2 en 2030. Pour eux, c'est très difficile de l'atteindre. Et pour eux, ça suffit d'avoir 35, 36, 37. Mais si eux font 36, les autres doivent faire 42, 43, 44. Donc, ce n'est pas ce qu'on appelle maintenant un win-win. C'est un zero-sum game. Ce que l'un fait de moins, l'autre doit faire de plus. Ça ne rend pas les choses faciles. C'est un accord ambitieux. Puisque notre objectif est de faire moins 40% en 2030 en émissions CO2 par rapport à l'année de référence qui est 1990. Donc c'est un objectif ambitieux. Est-ce que c'est un objectif crédible ? Oui, parce que l'autre objectif de faire moins 20% en 2020, on l'atteindra. On fera même plus, 23-24%. Et donc, c'est tout à fait crédible si on a un nouvel objectif qui est fort ambitieux. Est-ce que c'est faisable ? Oui, c'est faisable. Et d'ailleurs, comme président honoraire maintenant, une nouvelle fonction, président honoraire de la section Union européenne, EU Chapter, du Club de Rome, eh bien, j'ai assisté à un discours remarquable du président international, tout à fait à l'encontre, à l'opposé du premier rapport. C'était un message positif, encourageant, volontariste. Technologiquement, tout est faisable. On a les instruments pour le faire. On sait ce qu'on doit faire. Mais ce n'est pas parce qu'on voit le bien qu'on agit de sorte. Non. La personne humaine est plus compliquée que cela. Mais donc, il y a On peut dire que ces objectifs sur lesquels on s'est mis d'accord sont des objectifs faisables. L'Union européenne a bien sûr une responsabilité historique. On a été les premiers à s'industrialiser, on a été les plus grands pollueurs historiques. Mais aujourd'hui, notre part relative dans la pollution mondiale n'est que de 10%. Les Américains, les Chinois nous battent largement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de responsabilité du tout. Mais on fait 20% de l'économie mondiale, l'Union européenne, on fait que la moitié tant que émission CO2. Mais on a un devoir pour le bien commun mondial. Pas uniquement européen, mais mondial. Bien sûr, ça nous aiderait beaucoup si tout le monde contribue. Parce qu'avoir une attitude éthique, c'est une chose. Mais la vie est toujours faite entre vos intérêts et vos idéaux. Et ça aide beaucoup si vos idéaux sont en ligne avec vos intérêts. Et donc, si tout le monde participe, eh bien, ça rend, disons, l'attitude éthique plus facile. Donc on a un devoir planétaire. On ne le nie pas du tout, mais on doit mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Est-ce que les éléments sont plus propices à un accord ambitieux et crédible et engageant, même contraignant, qu'il y a quelques années? Il y a des éléments pour être plus positifs. Aux États-Unis, on est toujours très heureux d'avoir le président Obama, parce que lui est très engagé dans cette lutte. Il participera d'ailleurs à la conférence à nouveau à Paris, comme il était à Copenhague. D'ailleurs, le président chinois y sera. À Copenhague, c'était que le premier ministre. Et donc, il y a une prise de conscience sur le plan politique, je dirais, qui est plus forte qu'il y a 6 ans. L'Union européenne y sera. Elle parlera d'une voix. On essaierait, bien sûr, d'avoir des alliés. Et l'Union européenne organisera une grande conférence à Valletta, à Malte, d'ici quelques semaines, ou la semaine prochaine même. Elle en profitera, l'Union européenne, de se concerter avec les Africains. Les Africains qui sont très concernés par le changement climatique. On n'est pas tous égaux devant le changement climatique, ni dans nos pays, ni sur le plan mondial. Les Africains, en particulier, sont très touchés. Et là, je n'en parlerai pas parce que je ne suis pas un spécialiste, mais il y a un côté social et au niveau national et au niveau mondial. Et les Africains peuvent être nos partenaires privilégiés pour avoir un accord, disons, engageant, contraignant et ambitieux. Donc l'Union européenne est très engagée à trouver un accord à Paris. Nous ne sommes pas les seuls, mais nous avons... À ce moment-ci, nous avons pris le leadership dans la transition mondiale vers une économie pauvre en carbone. Nous avons diminué l'intensité de la carbone la moitié par rapport au début des années 70, quand en fait, avec le rapport du Club de Rome et le quadruplement du prix du pétrole, le monde a changé. Donc, il y a des choses qui se sont passées. L'espoir est toujours basé sur les actes qu'on a posés. Ça, c'est la base de la crédibilité. L'espoir, ce n'est pas quelque chose de, disons, qui est un exercice vain. Non, l'espoir, c'est quelque chose basé sur des faits concrets dans le passé. Est-ce qu'on peut avoir bonne conscience? C'est une grande question. Le président Kennedy, dont j'ai connu le discours d'inauguration par cœur quand j'étais très, très jeune, encore plus jeune qu'aujourd'hui, il disait, With a good conscience, our only sure reward. Avec une bonne conscience, notre vraie seule récompense. With history, the final judge of our deeds. Avec l'histoire qui nous jugera plus tard. Let us lead the land we love, comme les Américains seulement peuvent le dire. Est-ce qu'on peut avoir bonne conscience? Non, face au problème, on ne peut pas avoir bonne conscience. Mais je retiens le mot qu'on a prononcé tout à l'heure et je changerai vos mots. Ce n'est pas uniquement entre la vie et la mort. Je réemploie le terme un petit peu grec. C'est en fait une lutte entre l'éros et thanatos, entre l'amour et la mort. Eh bien, moi, je suis du côté de l'amour. Merci beaucoup.
Moi, je trouve que, enfin, ça a été époustouflant. J'ai absolument rien à rajouter, sauf que je voulais, en tout cas, remercier toute l'équipe qui a préparé et organisé cette soirée. Je voulais remercier particulièrement Alain, Aline, Jean-Louis, Michel, et puis toute l'équipe des grands-parents, l'équipe plaidoyer. L'idée est née le jour de la fête nationale, une réunion de notre petit groupe plaidoyer, et la mobilisation n'a pas cessé depuis lors. Merci vraiment à tous, mais aussi à ceux qui vont rediffuser cette soirée. Donc ici, Philippe Delchambre, qui a été non seulement un grand soutien technique pour que vous entendiez quelque chose, et en plus, il va rediffuser sur Radio Campus. En tout cas, je voulais remercier Sébastien et Olivier qui ont filmé par caméra, et ça nous permettra de mettre donc des capsules sur notre site internet avec tous les exposés, et puis il y aura un petit résumé de la soirée. Voilà, et donc maintenant j'appelle Marie-Hélène, qui est étudiante, qui est la vice-présidente de la commission de transition écologique de l'AGL, et ce sera les derniers mots de cette soirée.
Ben voilà, surprise. Merci beaucoup en tout cas de m'accueillir ici. Et comme l'a dit Thérèse au début de la conférence, ben il s'agit d'un appel des grands-parents pour le climat. Et qu'est-ce que serait un appel sans une réponse, aussi humble qu'elle puisse être, ben de notre génération, de celle dont vous êtes les grands-parents. Pour préparer mon intervention, au final, j'ai interrogé pas mal de personnes. Et si je devais reprendre tout ce qu'elles m'ont dit de dire ce soir, je pense que j'aurais vraiment pas assez en quelques minutes de discours. Alors, puisque mes prédécesseurs ont assez bien fait ça, eh bien, je ne vous parlerai que des choses que je connais. Et je crois que si aujourd'hui, vous et moi, on est là, ben c'est parce qu'on est interpellés par une situation qui a déjà beaucoup trop duré. Et ce dont je peux vous parler ce soir, c'est d'une génération, la nôtre, et d'une société qui veut pouvoir avoir foi en demain et qui voudrait l'assurance qu'aujourd'hui, les dirigeants du monde, non contents d'être conscients des enjeux, eh bien, agissent à la hauteur de ce qui est nécessaire. On se posait des questions. C'était de se dire, quand est-ce qu'on a cessé d'être ambitieux? Quand est-ce qu'on sera cohérent? Et quand encore est-ce que les enjeux de long terme vont faire partie des sujets qu'on prend à bras-le-corps? Pour illustrer un peu mon propos ce soir, j'ai choisi de vous présenter un extrait de Gabriel Nadeau-Dubois, qui est l'ancien porte-parole du mouvement étudiant québécois, et qui exprime une vérité qui me semblait un peu trop souvent ignorée. Cette vérité, elle s'appelle « la force d'avoir le choix ». On vit dans un monde où l'on nous répète constamment qu'il est possible, si on travaille assez fort, de réaliser tous nos rêves. À la télévision et dans les magazines, on nous dit que pour celui qui se relève les manches et qui fonce, tout est possible. Mais lorsqu'il est question de politique, le message change. Tout d'un coup, on nous dit qu'on est impuissant et qu'il faut accepter les décisions du gouvernement. Dès qu'il est question de finances publiques ou d'austérité, on nous dit toujours la même chose. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de couper, on n'a pas le choix de privatiser, on n'a pas le choix de geler les salaires, etc. Voilà un curieux phénomène. Si on en croit le discours dominant, on serait individuellement tout puissant, mais collectivement impuissant. Et j'ai découvert que c'était le plus grand mensonge de notre époque, et que c'est l'inverse qui est vrai. Seul devant le patron, seul dans sa voiture, seul devant sa déclaration de revenus, c'est vrai qu'on est impuissant et qu'on ne peut pas faire grand-chose pour améliorer son sort. C'est normal, dans ces moments-là, de sentir que le monde est trop grand et trop complexe pour qu'on puisse y changer quelque chose. Mais quand, au contraire, on se rassemble pour s'organiser, quand on se serre les coudes, quand on découvre la solidarité, on se rend compte de tout le pouvoir que l'on a, ensemble. Et se mobiliser, c'est le meilleur moyen de ressentir ce pouvoir. Fin de citation. Eh bien, si nos dirigeants sont incapables de mobiliser leurs forces en suffisance, alors même que la COP21 arrive et qu'on devrait arriver à un accord ambitieux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, eh bien, si eux n'ont pas ça, eh bien, nous l'avons. Nous avons un mouvement qui est mobilisé et qui appelle chacun d'entre vous à la mobilisation. Pourquoi ça ? Eh bien, parce que l'urgence de la situation appelle à des décisions qui soient courageuses et qui soient importantes pour repenser les modèles, pour penser une transition maintenant. Et je crois que vous, comme moi, on sait qu'il y a finalement peu de chances que ces décisions soient prises entièrement, même si certains pouvaient penser le contraire tout à l'heure. En nous mobilisant tous ensemble, ce qu'on peut aussi montrer simplement, eh bien, c'est notre pouvoir à nous. Et c'est de dire à chacun, à chacune des personnes qui va devoir décider, que nous serons là après pour voir ce qu'ils ont fait et pour voir la décision qu'ils ont prise. Alors depuis le début du quadrimestre, avec plein d'associations différentes, eh bien, on essaye de sensibiliser et de parler aux gens de la COP21 et des enjeux qui vont se jouer là-bas, parce que c'est important que chacun d'entre nous puisse se mobiliser. Et quand on m'a proposé d'aller à Paris, je vais vous avouer quelque chose, c'est que j'ai hésité. Je me suis dit, au fond, mais qu'est-ce que ma voix pourra apporter de plus ? Et je pense que c'est une question que beaucoup d'entre vous peuvent se poser, a priori. Mais j'ai changé d'avis. Et pourquoi ça ? Eh bien, parce que simplement, la réalité, c'est que si on ne fait rien, d'ici 2100, eh bien, on verra survenir des catastrophes sociales, écologiques, et des centaines de millions de personnes vont subir les conséquences de ce que nous n'aurons pas fait. Donc c'est ici un appel, en fait, que je vous fais pour conclure cette conférence. Et je ferai un petit rappel à Gabriel Nadeau-Dubois que j'ai cité plus tôt en disant « Eh bien, ayons la force d'avoir le choix et n'ayons pas à regretter de n'avoir rien fait. » Alors pour terminer mon intervention, ce que je dirais simplement, c'est que je vous inviterai à vous poser une petite question maintenant. Si ce n'est pas moi qui le fais, eh bien, qui le fera ? Et si ce n'est pas maintenant, quand ?
Clôture les deux volets de la conférence Appel aux consciences pour le climat, organisée par les grands-parents pour le climat et la Maison du développement durable de Louvain-la-Neuve.